Qui sommes-nous ? Créée en 1928 pour défendre l'école publique, l'Amicale laïque facilite l'accès de tous à la pratique d'activités culturelles, sportives et récréatives. Elle favorise le lien social entre adhérents sans distinction d'appartenance politique, sociale ou religieuse. Elle continue à manifester sa fidélité à l'idéal laïque et son attachement aux valeurs républicaines.
Bonjour, le 14 mai 2022, l'Amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire organisait sa première journée portes ouvertes. Et pour couvrir cet événement, la rédaction d'Alternante FM s'est installée sur place dans la salle de réunion Quesnay. De manière non exhaustive, nous allons consacrer deux magazines pour présenter notre association hôte et découvrir quelques-unes de ses activités. L'Amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est plus de 90 ans au service de l'éducation populaire. Marie-Louise Gurgeon, présidente de l'Amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire.
L'Amicale est ici depuis très longtemps, avant la guerre. Il y a eu un premier foyer qui a brûlé en 1964, qui était en bois, et qui a été reconstruit et qu'on occupe toujours aujourd'hui. Donc nos locaux sont un peu anciens, mais on en est très fiers et on est très, très contents de pouvoir y mener notre vie d'amicaliste. Pas uniquement ici, bien sûr, parce qu'une partie des activités s'exerce bien sûr ailleurs que dans les locaux de l'Amicale.
Alors une façon de présenter l'Amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire aujourd'hui, c'est de présenter les différents locaux. Il y a une salle de théâtre, il y a une salle de danse.
Qui a été construite tardivement en 1994, et puis une salle de réunion et des magasins de stockage. Donc ce sont des locaux relativement importants dans le centre de Saint-Sébastien, voilà, facilement accessibles à tous.
À deux pas de la médiathèque.
À deux pas de la médiathèque et qui en même temps ne sont pas suffisamment connus parce qu'il y a encore plein de Sébastianais qui ne savent pas que l'Amicale laïque se trouve ici, qui sont parfois un peu surpris quand on leur dit qu'on habite ici en quelque sorte. C'est aussi une des raisons pour organiser ces portes ouvertes, pour les montrer, pour que les gens puissent les découvrir.
Aujourd'hui, ça se quantifie en nombre d'adhérents, en activité, elles sont fluctuantes.
Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs, c'est fluctuant. Aujourd'hui, on a 18 activités. Quand on distingue les différentes sections d'école, il y a en tout à peu près 1200 adhérents. Toutes les activités regroupées. Évidemment, certains adhérents, ce sont des enfants, mais on considère que leurs parents, qui sont leurs représentants légaux, sont des adhérents de l'Amicale.
Et c'est une grosse association au niveau de la commune.
Même au niveau du département, je pense que c'est une des plus grosses amicales. Il y a des plus grosses, mais c'est sûrement une des plus grosses. Et sur Saint-Sébastien, ça doit être la deuxième association en nombre d'adhérents.
Les Amicales laïques ont été créées dans un contexte très particulier, comme le souligne Patsy.
Parler des Amicales laïques nous fait revenir plus d'un siècle en arrière et nous fait revivre les temps rugueux de la guerre scolaire, surtout dans l'ouest de la France, où les cubénis, les écoinques, les ratichons et les grenouilles de bénitier étaient légion. Bien souvent, les Amicales laïques ont pour fondateurs des enseignants, notamment des instituteurs, qui sont de fervents républicains, parfois socialistes, parfois communistes, mais surtout très anticléricaux. Défendre l'école laïque, c'est défendre le progrès, la science, la raison contre l'obscurantisme et la superstition qu'incarne l'école privée confessionnelle. Les fondateurs des Amicales laïques ressentent la nécessité de faire front face à la puissante Église catholique qui n'a pas désarmé depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle s'efforce toujours de contrôler les armes et a développé à côté de ses écoles des clubs de sport, des fanfares et autres activités culturelles. Beaucoup d'amicales laïques, dont celle de Saint-Sébastien-sur-Loire qui nous accueille, ont vu le jour dans la seconde moitié des années 1920, soit au lendemain des imposantes manifestations cléricales des années 1924-1926. Là, ce sont des centaines de milliers de personnes qui alors défilent, au nom de Dieu mais aussi du roi, contre les rouges, les mécréants, les francs-maçons, pour défendre la France, fille aînée de l'Église. Ces mobilisations soulignent qu'une partie non négligeable de la population catholique n'est pas encore acquise à l'idée républicaine. Elle est catholique avant tout, parfois royaliste, comme la plupart des nobles qu'elle envoie à l'Assemblée nationale à chaque élection. Et c'est le cas, bien sûr, en Loire-Atlantique. En créant des amicales laïques, les fondateurs dotent ainsi les classes populaires urbaines d'outils pour s'émanciper. S'émanciper par le sport qui permet de se maintenir en bonne santé, alors que deux fléaux frappent les classes populaires, des conditions de travail et de logement souvent déplorables, et puis, bien sûr, l'alcoolisme. S'émanciper par la culture, parce qu'un peuple éduqué, pour ces militants républicains, c'est un peuple qui peut se prendre en charge lui-même. Les amicales laïques ont donc ainsi deux visages, celui de la défense de l'école laïque d'un côté, celui de l'émancipation. Et chaque amicale a une personnalité propre, car elle est à l'image du territoire qui la voit naître. Elle sera républicaine ici, plus rouge ailleurs. L'engagement dans une amicale laïque, comme militant ou simple adhérent à l'une des activités proposées, était donc un acte politique, un marqueur d'identité. Un siècle a passé, il n'est plus question aujourd'hui de guerre scolaire, même si la défense de l'école laïque demeure d'actualité. Un siècle a passé, et nos concitoyens ont l'esprit bien plus consommateur que jadis. Si leur enfant veut faire tel ou tel sport, et que celui-ci n'est proposé que par une structure laïque ou bien issue des patronages chrétiens, ils l'inscriront sans se soucier de la nature du dit club. Un siècle a passé, et les amicales laïques poursuivent leur chemin et tentent de se réinventer en proposant aux populations de leur localité des activités sportives et culturelles à des tarifs abordables, mais aussi, surtout peut-être, du lien social, des espaces bienveillants et solidaires. Et dans ce monde, ce n'est pas rien.
La promotion de l'enseignement public, c'est toujours d'actualité?
C'est toujours d'actualité, absolument. En tout cas, il y a des sections d'école. Ça veut dire que les parents dans les différentes écoles publiques de Saint-Sébastien se sont réunis pour créer une section d'école qui a adhéré à l'amicale. Alors, en fonction des époques, certaines écoles avaient une section à l'amicale et pas d'autres. Actuellement, sur 5 écoles, on a 4 écoles qui ont leur section à l'amicale laïque. Donc, c'est toujours la défense de l'école public, même si on n'est plus dans un contexte des guerres scolaires, la défense de l'école publique, ça reste toujours une préoccupation de l'amicale. Ça passe aujourd'hui par le soutien aux sections qui mettent en place des projets et qui aident les projets des enseignants, par exemple, qui peut aider à l'organisation de classes vertes, qui n'intervient pas du tout dans la pédagogie, bien sûr, mais qui fait des activités pour aussi créer du lien entre les parents de l'école, parce que c'est aussi une des préoccupations de l'amicale, c'est la création de liens sociaux, y compris dans les écoles.
Vous pouvez faire un peu de lobbying auprès des ministres de l'Éducation nationale? Non, pas du tout.
Alors nous, à notre niveau, on ne fait pas ça parce que ce n'est pas notre vocation. Sans doute que la FAL 44, la Fédération des amicales laïques, le fait, la Ligue de l'enseignement, évidemment, à leur niveau. Nous, on reste au niveau de la commune. On est bien sûr en lien pour l'ensemble de nos activités, en lien avec la municipalité, pour défendre les projets qui intéressent la municipalité, dans la mesure où, par exemple, pour les activités sportives, on a besoin d'accéder à des gymnases, d'avoir des créneaux dans les différents équipements, etc. Mais ça reste au niveau communal.
Vous prenez l'autonomie des sections?
Oui.
C'est une particularité de cette amicale laïque?
Je ne sais pas exactement à quel niveau les autres amicales le pratiquent. Il y a toujours un lien très fort entre l'amicale elle-même, bien sûr, et ses sections. On prône l'autonomie dans la mesure où on n'intervient pas dans les activités sportives ou culturelle de la section qui s'organise comme elle veut, qui est assez responsable. Mais par exemple, tous les salariés mis à disposition des activités sont employés par l'amicale. Donc les sections ne sont pas employeurs. L'amicale aide aussi les sections au niveau financier. Il y a un seul trésorier qui est vraiment le trésorier de l'amicale. Après, il y a des trésoriers pour les différentes activités. Mais c'est une autonomie relative, une autonomie qui permet de vivre au quotidien, mais qui ne permet pas de se détacher complètement de l'amicale. Il y a des statuts communs, il y a un règlement intérieur commun que toutes les sections sont tenues de respecter.
Comment vous êtes financé?
Alors, on est financé par nos adhésions, bien sûr, parce que toutes les activités perçoivent une adhésion dont une partie est reversée à l'amicale laïque, et l'amicale laïque a aussi des subventions municipales.
C'est essentiellement une équipe de bénévoles?
On a quelques professionnels dans différentes sections, on a quelques animateurs sportifs qui sont embauchés par l'amicale, on a des professeurs de danse. danse, par exemple, au théâtre, il y a des professionnels. Ça peut être des salariés de l'amicale, mais ça peut aussi être des prestataires qui interviennent pour certains cours.
Le monde de l'entreprise et le monde privé peuvent soutenir l'enseignement public.
Ah oui, bien sûr, ils peuvent, tout à fait. On ne refuse pas des aides diverses et variées. Après, c'est les sections aussi qui font des recherches de fonds pour leurs propres activités.
Cette journée particulière, c'est à la fois pour avoir une visibilité auprès des habitants ou du public, parce que ce n'est pas forcément les habitants de la commune, c'est ouvert à tout le monde.
Oui, on a pas mal d'adhérents des communes alentours.
Et c'est aussi peut-être pour motiver les adhésions et puis motiver les personnes à vous rejoindre. Est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles ?
En recherche de bénévoles, toujours, oui. Ça ne se fait pas forcément un jour comme ça. Je dirais que ce n'est pas le premier objectif des portes ouvertes, parce que les bénévoles, on les trouve bien sûr dans les différentes activités, mais les bénévoles, on les trouve, je pense, par le fait qu'on crée une dynamique autour de l'association. C'est ce qu'on essaye de faire. Et quand une association est dynamique et quand les gens voient qu'il y a de la vie, ils ont envie d'y participer. Donc, c'est ma conviction. Les bénévoles, il faut les intéresser. Mais c'est vrai que je disais qu'on fonctionne beaucoup avec des bénévoles. Mais c'est informer aussi sur nos différentes activités. Parce que là, c'est la même chose que pour les locaux, comme je l'ai dit auparavant. Souvent, les Sébastianins ou même les personnes des communes autour ne connaissent pas l'amicale et ses activités. Ou alors, parfois, connaissent une activité, mais ne savent pas que ça fait partie de l'amicale laïque. Donc, le but, c'est aussi de montrer qu'on est une entité. C'est important de montrer qu'on est une entité faite de beaucoup de sous-entités. Et voilà, de proposer des activités, mais aussi de créer du lien social aussi. C'est aussi créer du lien entre les différentes activités, parce qu'aujourd'hui, les bénévoles des associations sont souvent sous pression. On leur demande de plus en plus de choses, c'est de plus en plus compliqué, notamment dans certains domaines. C'est important qu'ils puissent communiquer entre eux et qu'ils puissent avoir des moments de plaisir. Une journée comme aujourd'hui, c'est un moment de plaisir parce qu'on rencontre du monde, les différents bénévoles se rencontrent entre eux et ça crée du lien. On est là aussi pour dire venir dans une section, ça veut dire aussi on est dans une association, donc on participe à la vie associative. C'est l'objectif. On est réaliste, on est dans un monde où ces valeurs-là sont un peu parfois en crise, mais ça doit être le discours qu'il faut qu'on continue de porter. On veut créer de la vie associative, on ne veut pas que donner l'occasion de consommer des activités quelles qu'elles soient, aussi intéressantes qu'elles soient.
Dans ce monde qui se judiciarise, est-ce que, au fond, ça démotive les personnes à s'engager?
Oui. Moi, personnellement, ça ne me démotive pas, aussi parce que je sais que dans ces situations-là, on n'est pas tout seul, parce que j'ai l'énorme chance d'avoir une équipe autour de moi qui est très investie et très engagée. Et donc, on partage les responsabilités, on travaille collectivement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont là depuis très longtemps, qui peuvent être de bons conseils sur plein de choses. Et puis, sur les questions juridiques, parce qu'on n'est pas juriste non plus, quand vraiment la question se pose, on se tourne vers la FAL, la Fédération des Amicales Laïques, qui, elle, a des juristes et qui peuvent nous conseiller sur des questions qui peuvent être parfois un peu complexes et un peu délicates. Heureusement, ce n'est pas si souvent, mais c'est un des grands intérêts d'adhérer à la FAL, parce que parfois, les gens, ils nous disent « Mais à quoi bon de faire partie de la FAL? Ça ne nous apporte rien. » Si, ça nous apporte énormément le moment où on en a besoin, parce que c'est là qu'on peut se tourner vers des professionnels dont c'est le métier et d'avoir des conseils fondés.
Je suis René, je suis le papa de Camille qui fait du roller artistique.
Et vous êtes plutôt à la clarinette?
Et moi je suis plutôt à la clarinette. Pour le vin de l'amitié, pour le verre de l'amitié, ouais.
Et c'est un instrument difficile?
Bon, il faut l'apprendre de bonne heure et puis bien travailler, puis c'est pas un instrument si difficile que ça, non?
Qu'est-ce que vous allez interpréter?
When I'm 64 des Beatles.
Adhérent depuis 1966.
Depuis 1966, oui.
Qu'est-ce qui vous a fait adhérer à l'amicale?
Au basket, parce que je jouais avant au basket et quand j'étais muté, je suis revenu dans la région. Donc il y avait un club à Saint-Sébastien, je m'y suis inscrit. Et puis après, comme c'était bien, j'y suis resté. Et puis je suis toujours resté à l'amicale laïque. Et donc après, quand j'étais en retraite, j'ai créé l'école de sport de la Profondine avec le président de l'époque qui était, Albert Escure. Et après, bien, j'ai quitté l'école de sport et je me suis occupé de la randonnée avec Marie. Là, et depuis, ben, j'étais aussi au conseil d'administration. Et maintenant, ben, j'ai quitté le conseil d'administration parce que je suis un petit peu trop âgé.
Vous avez quel âge, sans indiscrétion ?
81.
Ça entretient la marche ?
Ah oui, mais actuellement, malheureusement, je ne peux pas marcher. Donc, c'est des soucis de santé. Ouais.
Et, bon. Et alors, l'intérêt de rejoindre aussi une amicale laïque, parce qu'il y a aussi des associations sportives qui ne sont pas adhérentes à une amicale laïque ?
Ah ben, absolument. Ouais. C'était aussi une de mes... de ma démarche, parce que mon épouse était enseignante et avait été nommée à Saint-Sébastien. Donc c'est pour ça aussi que je suis allé à l'amicale laïque de Saint-Sébastien. Ça correspondait à mes idées, que j'ai toujours défendues, l'école publique. Après, j'ai été aussi DDEN, donc beaucoup d'activités autour de l'école. Et l'amicale laïque me convenait parfaitement bien.
On retrouve le même niveau au sein des sections sportives qui adhèrent à l'amicale laïque ?
Ben oui, parce qu'à une époque où j'étais aussi au basket, enfin, en tant que dirigeant, les filles ont joué en National 3 et les garçons ont joué en National 4, donc c'était pas incompatible. Maintenant, il paraît que c'est plus difficile, mais j'ai quitté le basket, donc je sais pas comment ça se passe.
Vous avez créé la section randonnée ?
Oui, avec un autre monsieur, Henri Chourolot.
C'est facile de créer une section ? Qu'est-ce qu'il faut donner comme argument ?
Pour créer une section, il faut avoir la volonté, il faut déjà pouvoir encadrer, diriger, c'est la première des choses, et là... on voudrait bien ouvrir un peu plus la randonnée, mais on n'a pas de personnes qui veulent prendre des responsabilités. Venir participer, oui, mais prendre des responsabilités, non. Donc on a plein de demandes encore aujourd'hui, là, peut-être une trentaine de personnes qui aimeraient faire de la randonnée, mais nous, actuellement, on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a pas de personnes pour mener la randonnée.
Vous les effectuez où, ces randonnées ?
Alors les randonnées, bah, c'est sur l'ensemble du département, dans un rayon de 30 à 40 km autour de Nantes. Mais actuellement, nous n'allons plus au Nord-Loire, compte tenu de la circulation sur le périph avec les travaux. Donc on reste au Sud-Loire et puis le vignoble.
Si on traduit sortie en kilomètres ou en heures ?
En kilomètres, ça varie de 10 à 15 km. L'hiver, on fait des randonnées plus courtes parce que les jours raccourcissent. Enfin, la nuit vient plus tôt, donc... Et puis l'été, à partir du printemps, on fait des randonnées plus importantes. Bon, là, on va 12, 13, 14, 15 km. Hier, ils ont fait 15 km.
J'ai vu sur les photos, mais les photos peuvent être trompeuses, que la moyenne d'âge est plutôt élevée.
Ah oui, ce ne sont que des retraités. Ici, il y a une dame encore qui travaille, mais ce ne sont que des retraités. Et beaucoup sont là depuis le début. Ils étaient jeunes retraités. Maintenant, ils sont un peu anciens.
Il faut un équipement particulier, un bâton.
Ben les bâtons, on peut randonner sans bâton, mais c'est vrai que ça aide quand même énormément. Et on a moins mal aux genoux si on utilise un bâton, et c'est très utile, surtout quand il pleut et que les terrains sont un petit peu gras, ça permet que faut garder un peu l'équilibre. Et autrement, ben bien sûr, une paire de chaussures adaptées en fonction des conditions climatiques. À cette période, on peut marcher avec des chaussures basses, à la limite des baskets, mais ce n'est pas très recommandé. Autrement, l'hiver, bon, il est bon d'avoir quand même des chaussures adaptées qui soient montantes pour se marcher dans de bonnes conditions et pas avoir les pieds mouillés.
Et pas choper des ampoules.
Et pas, ah oui, ça c'est... Mais ça arrive.
Même pour vous.
Ah oui, ça arrive.
Après nous être très succinctement penchés sur la section randonnée, donnons-nous non pas des ailes mais des roues pour nous intéresser à la section rink hockey en compagnie d'Hugues Pommeret et de Franck Béliard, respectivement président et ancien président de la section rink hockey. Comment se passe le relais ? Il y en a un qui était épuisé et l'autre qui a repris.
Écoutez, non, on se répartit les tâches. La section rink hockey qui existe depuis 84, si on met le rink hockey, le patinage artistique et le patinage de vitesse et le loisir, et le roller handicap aussi, fait qu'on est un des plus gros clubs de patinage au niveau français. Et donc moi, je représente avec Franck là ce matin la section rink hockey. Je pense que dans le paysage des Pays de la Loire, on fait partie des gros clubs des Pays de la Loire, avec une section très dynamique, puisqu'on commence à prendre les enfants au baby roller, donc à partir de 3 ans, 4 ans, et on a jusqu'à une section vétéran avec des anciens, des parents qui reviennent avec les enfants, et des parents qui continuent à pratiquer, notamment le dimanche matin en loisir, au gymnase de Louchkiné. C'est là notre demeure.
Patsy ?
Si je vous dis que le rink hockey, c'est du hockey sur glace, sans glace et sans palais, est-ce que j'ai bien résumé la situation ou c'est franchement deux choses complètement différentes ?
Je vais peut-être laisser la parole à Franck.
La définition d'ensemble me paraît bien. Mais c'est pas ça, on joue pas avec un palais déjà au rink hockey, on joue avec une balle, on joue avec une crosse courte. Et au rink hockey, on n'est pas violent. Si on n'a pas le droit de se mettre en échec, on n'a pas le droit de bourrer dans les autres, c'est interdit. Voilà, c'est un sport où il faut conjuguer deux choses très primordiales, savoir correctement patiner et avoir une technique cross-balle très importante. Après, ça reste un sport collectif. Comme le basket, comme le foot, comme le hand et tout, si on ne se sert pas de ses copains ou de ses copines pour jouer, ça ne marche pas.
On est combien ? Il y a un gardien ? Il y a combien de joueurs de champ ?
Une équipe, elle est composée de 10 joueurs. Logiquement, il y a 2 gardiens et 8 joueurs de champ. Et sur le terrain, en même temps, on a un gardien et 4 joueurs.
Et au hockey, Hugues ?
Ils sont plus nombreux, je crois qu'ils doivent être 7 joueurs de champ, plus le gardien. Et nous, c'est un sport très rapide, très spectaculaire, ce qui fait que ça tourne énormément. Je veux dire, il y a beaucoup de mouvements. C'est pas comme au foot où, une fois qu'on est rentré sur le terrain, on sort, on peut pas rentrer. Nous, ça rentre, ça sort. Il y a toujours de la vitesse, quoi. C'est ça qui fait un peu la spécificité de notre sport. Par rapport à ta comparaison vis-à-vis du hockey, nous, c'est le hockey latin. C'est-à-dire que nous, les meilleures nations au niveau mondial, c'est l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Argentine. Le Brésil, c'est très latin, quoi.
Bien que ça soit un sport qui a été inventé par les Anglais au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, la prédominance dans ce sport, elle est latine, on va dire. Ce sport est complètement amateur en France, professionnel Espagne, Portugal, Argentine, semi-professionnel pour l'Italie. Et on a vraiment des pays qui sont très très forts. On a la chance, en France, d'avoir une génération de très très bons joueurs, ce qui nous met dans les 4 premières nations mondiales aujourd'hui. Et bien sûr, les enfants qui pratiquent le rink hockey, ils regardent ça aussi, quoi. Ça les fait rêver, c'est ça. Notre but, c'est quand même de faire rêver les enfants à la base, de les faire rêver, de les amener à être solidaires, jouer en équipe, c'est-à-dire forger un peu la société, c'est-à-dire que si on ne se respecte pas les uns les autres, c'est pas bon. Si on joue tout seul, c'est pas bon. Si on ne joue pas en équipe, c'est pas bon. Il faut forcément avoir des valeurs de sport collectif. La valeur du sport collectif, c'est s'aider les uns les autres, c'est faire ensemble. Et je pense que c'est aussi un des buts des amicales laïques.
Alors moi, je suis natif de La Roche-sur-Yon. Et durant ma jeunesse, évidemment, la Vendéenne, le club de La Roche-sur-Yon, rayonnait sur le monde entier. Mais j'ai été surpris de voir que, en fait, il y a pas tant de clubs que ça. C'est-à-dire, Hugues, quand je discutais avec toi, bien souvent, et ça c'est compliqué pour les sections, vous faites des voyages très très longs pour affronter d'autres équipes. Hein. C'est pas un maillage qu'on peut y avoir au football, au rugby, au basket, au handball ou je ne sais quoi. Comment tu expliques, toi, historiquement, cette différence d'implantation, le fait qu'il y ait si peu de clubs de rink hockey ? Est-ce que tu as une explication ?
Non, pas vraiment, mais c'est vrai qu'historiquement, moi qui viens du patinage de vitesse par exemple, je retrouve les mêmes ancrages, la Bretagne, la région bordelaise, après on a le Rhône-Alpes, et on a aussi la région du Nord avec Saint-Omer, un des gros clubs de France, Roubaix.
Il a oublié les Pays de la Loire.
Historiquement, le patinage fait qu'en Pays de la Loire, on a toujours été un peu à la pointe également au niveau national, ça c'est une certitude.
La région parisienne, avec cet immense vivier, il y a une tradition ou pas ?
Moi, au niveau rink hockey, c'est plutôt des Bretons qui ont migré en région parisienne, qui ont installé des sections quoi, de rink hockey, mais après on retrouve du patinage, il y en a en région parisienne, il n'y a pas de souci. Et nous, au niveau de la Loire-Atlantique, on a 2 clubs sur Nantes, on a le club du Nard, on a le club de l'Asta, on a le club d'Ancenis, on a le club de Blain, on a Bouguenay, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien, donc on est quand même une place forte du rink hockey en Pays de la Loire. Et puis après, effectivement, on va retrouver les clubs de Vendée, la Garnache, le Poiré, la Vendéenne, Mouilleron, et j'en oublie encore certainement un ou deux, l'Aiguillon-sur-Mer. Alors, par rapport à nos déplacements, effectivement, nous qui évoluons en National 2, cette année, on a été 3 fois sur Lyon. On va jusqu'à Aix-les-Bains, pour illustrer un peu. Roubaix, Tourcoing, Bayonne et la Bretagne, jusqu'au bout de la Bretagne.
National 2, c'est pour les seniors.
Tout à fait.
Il y a des catégories d'âge qui correspondent un peu à ce qu'on trouve dans le foot ou dans le hand, etc.
Tout à fait, puisque la réglementation européenne a fait qu'on parle tous en U ou en M maintenant, c'est-à-dire under ou moins en français. C'est les catégories d'âge classiques. On va des U10, U11, U12, U13 jusqu'à U19 pour les catégories jeunes. Le rink hockey en France est organisé pour les jeunes de manière régionale. Et à la suite des compétitions régionales, on se qualifie pour des demi-finales de championnat de France. Parce qu'il y a un championnat de France des clubs dans toutes les catégories. Aujourd'hui, notre but, c'est de faire progresser nos jeunes pour qu'ils essaient de participer à ces phases finales du championnat de France.
Si on veut venir vous encourager lors d'un match, ça se passe où ?
On s'entraîne au gymnase de Louchkinet. Moi, j'ai toujours connu cette place-là, à côté du collège de Louchkinet. Donc, on est un petit peu à l'étroit parce qu'effectivement, c'est un gymnase qui se fait vétuste, qui répond de moins en moins aux normes pour accueillir du public, pour accueillir des compétitions quand même d'un niveau national. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de pousser aussi auprès de la mairie pour essayer d'avoir une place, un gymnase un peu mieux adapté à notre pratique, et qu'on partage d'ailleurs avec le patinage artistique et le roller de vitesse.
Et au niveau du dimensionnement du terrain ?
Ah, c'est sur un terrain de hand.
C'est un 40-20, classiquement, ça peut aller jusqu'à 44-22, mais c'est classiquement 40-20. Et ça se joue, on va dire, avec des petits buts, parce que les buts ne sont pas bien grands. La balle est quand même toute petite, elle fait 8 cm de diamètre. Les meilleurs clubs jouent sur des parquets. Après, ça s'adapte à un certain type de lino, à du ciment, à du dallage. En Espagne, on joue beaucoup sur du dallage. On peut pratiquer le rink hockey sur pas mal de surfaces. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle soit un peu dure pour pas que les patins s'enfoncent.
Et j'ajouterais quand même, il nous faut des talonnières, puisque la balle ne sort pas du terrain, quoi. Ce qui fait qu'on ne peut pas jouer n'importe où, dans n'importe quel gymnase.
Les gamins peuvent commencer à faire des matchs à partir de quel âge ?
Alors, bah justement, on organise le championnat mini-hockey. On appelait ça avant les moustiques. Donc, c'est à partir de 8-9 ans. 8-9 ans, on organise des matchs donc, qui sont 3 sur demi-terrain avec un gardien. Et même avant ça, il y a le rink à 3, donc pour les tout-petits, où là, effectivement, il n'y a pas de gardien. Par contre, c'est vraiment des tout-petits buts, genre 50 cm sur 30 cm de haut. Voilà, donc on fait des petits matchs, mais en général, c'est plutôt en fin de saison, puisque le début de saison, les enfants apprennent à patiner, apprennent à utiliser la crosse. Et pour valoriser un peu tout ce travail, là, on organise au mois de mai, au mois de juin, des petites rencontres interclubs pour finir la saison de façon sympa.
L'esprit de ces rencontres-là, quand même, on est bien sur des rencontres, c'est-à-dire que ce n'est pas des matchs en tant que tels avec un résultat, c'est que les enfants se rencontrent et voient qu'il y a des jeunes comme eux dans d'autres clubs qui font le même sport, histoire de faire un petit peu de lien avec tout ça. Mais le but, c'est pas de gagner à cet âge-là, le but, c'est de jouer. Donc c'est l'obligation de faire jouer tout le monde, pas de résultat. Enfin, on n'a pas de publication officielle de résultats à cet âge-là, et j'y tiens très personnellement beaucoup, donc je le redis encore. Ça fait pas très longtemps que ça a été lancé, ça fait 7-8 ans pour nos petits championnats. Les moustiques, c'est un petit peu plus vieux, parce que c'était ancré en Pays de la Loire, ce championnat-là. Mais il faut que nos jeunes rencontrent les jeunes d'ailleurs pour se rendre compte qu'on vit dans une société. Parce que le sport est à l'image de la société, tout simplement.
Et c'est la section qui offre le matériel ? Parce que moi qui suis radin, par exemple, mon gamin, moi je l'envoie à la piscine, c'est juste un petit bonnet et puis un petit maillot. Mais là, une crosse, etc., un harnachement.
Alors ça, c'est la politique du club. Nous, à Saint-Sébastien, on a choisi de proposer de la location jusqu'au, on va dire, U16 ou jusqu'à la pointure 43-44. Parce que des fois, il y a des jeunes de 14 ans qui sont déjà au-delà de 44. Donc on prête le matériel. Évidemment, c'est payant.
Pour une somme modique, parce que c'est à peine 60 euros par an.
Voilà, en sachant qu'un équipement complet, c'est aux alentours de 350-400 euros. Et il y a des clubs où effectivement l'enfant qui veut pratiquer doit acquérir du matériel.
Parce qu'il y a beaucoup de protection pour tous les joueurs.
Justement, à la différence du hockey sur glace, puisqu'on en fait référence régulièrement, nous ce qu'on a c'est gants, genouillères, coquilles, protège-tibia. Voilà, c'est tout.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport qui s'inscrit dans la perspective de la transition écologique ? Parce que ça coûte cher d'entretenir une patinoire. Le gazon en période de sécheresse, il faut de l'eau.
Oui, quelque part, c'est... Vous me prenez un peu de cours, là. Non, mais c'est vrai que quand on voit, par exemple...
Des arguments,
ouais, ouais, bien sûr. Quand on voit en Espagne, les terrains sont à l'extérieur, et c'est vrai qu'il y a besoin de rien, quoi. Il y a juste un terrain plat avec des talonnières, et c'est tout. Et effectivement, on consomme en termes de consommation énergétique, il n'y a pas de problème, quoi.
Ce reportage a été réalisé lors de la première journée portes ouvertes de l'Amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire. Merci à Charles Deniaud, Marie-Louise Gurgeon, René Aubré, Joseph Lemarié, Hugues Pomeray et Franck Béliard pour leur libre participation à ce programme réalisé avec les complicités de Patsy et de Yann Le Taïron.